16. La clé des champs. Et que veut le démon? Un livre, répondait la voix éclairée par un ancien cyprès. Solaire, le tien, le mien ou l'autre, écrit sous la dictée. Pierre-Jean Jouve. Ainsi fut retourné le chevalier de Vaumacel. Aurait-il pu résister davantage à la volonté de la dame des futaies bleues? J'en doute. L'enchanteresse est redoutable pour tout un chacun, l'humble comme le puissant, l'ignorant comme le sage. Il lui suffit souvent de paraître pour ravir ses victimes par le prestige d'un charme qui doit moins à sa beauté qu'à son immanence. Or, Edan de Vaumacel était tombé dans ses raies depuis bien des années. Il s'était exposé à son charisme fatal par arrogance et naïveté. Il ne s'était pas seulement soumis à elle en lui prêtant hommage, mais en lui cédant un rameau de son âme qu'elle avait greffé dans sa roseraie secrète. Ainsi subjugué, tenu tout à la fois par son serment, par la dilacération de son cœur, par l'envoûtement de longue vie, comment le chevalier aurait-il pu refuser ce que la Lysandière exigeait de lui? Pourtant, l'enchantement n'avait pas effacé ses principes et il réprouvait profondément ce qu'il allait commettre. La dame des futaies bleues, à dessein, ne l'avait pas frappé d'un charme d'oubli et lui concédait toujours un semblant de libre arbitre. C'était une cruauté délibérée qui participait de son art. Elle accentuait l'emprise qu'elle exerçait sur son servant en le faisant souffrir. Cela ne faisait qu'amplifier la passion qu'il éprouvait pour elle. La dame se l'attachait donc plus étroitement en le poussant à renier tout idéal autre qu'elle. Telle était du moins son intention. La suite des événements devait montrer qu'Edan de Vaumacel, en dépit de son asservissement, réussirait malgré tout à se ménager une infime marge de manœuvre. On ne peut qu'admirer la finesse et la droiture qu'il déploya alors qu'il était pris dans un conflit insoluble entre l'envoûtement et le code de la chevalerie. Hélas, il en résulta beaucoup plus de mal que de bien. Et peut-être aurait-il été préférable que sa volonté eût été complètement brisée. Les événements auraient-ils suivi un autre cours si la dame des futaies bleues avait exposé plus clairement ses motivations au chevalier? Non qu'elle les lui eût dissimulées, d'ailleurs, car elle les avait évoquées à demi-mot. Mais elle ne lui dit pas vraiment la raison de son exécration pour la duchesse Odéhard. Pensait-elle qu'Edan, dévoré par la jalousie, lui prêtait un sentiment comparable, et que cela suffisait à le pousser à l'irréparable? Ou, tombant dans un travers elfique assez commun, projetait-elle sur son agent humain son propre rapport à la mémoire, et jugeait-elle superflu d'entrer dans le détail de tourments encore récents à ses yeux? Et ce, alors qu'il paraissait à moitié légendaire au regard des mortels. À moins qu'elle ne se montrât tout simplement négligente. Si la dame des futaies bleues s'est élevée bien au-delà de la condition elfique, elle en a conservé de nombreux travers, et la légèreté n'est pas le moindre. La haine que voue la dame des futaies bleues à la nécromancie royale du desséché est ancienne. On pourrait même être tenté de dire qu'elle est ancestrale, ce qui serait véridique au prisme d'un regard mortel, mais se trouve être littéralement inexact, car l'enchanteresse elle-même possède un âge canonique. Sa détestation du culte du desséché ne doit rien à ses aïeux. La longévité des elfes, pérennisée par sa virtuosité dans les arts magiques, a fait d'elle une créature d'une incroyable antiquité. Son caractère légendaire et les nombreux noms qu'on lui prête, Guy de Lem dans la marche franche ou le nord du duché, Guy de Lena Tchoudalia, la Lissandière dans la vallée du Vernobre et le sud de Bromel, Soumardis en Ouromagne, attestent le caractère immémorial de la trace qu'elle a laissée au sein du vieux royaume. Il va sans dire qu'aucune de ces appellations n'est son nom véritable. Et je me garderai bien de le noter dans ces lignes, de crainte de l'évoquer de façon intempestive. Suffit de dire qu'elle est bien plus vieille que la guerre des grands vassaux. Le syncrétisme cycloteïste, la fondation du royaume de Léomance, la prédication d'Ocane le dévoreur et même, très probablement, le schisme du culte de la déesse. Dans la tradition elfique, elle fut l'une des rivales de Maelangel Lyr dans le cœur du haut roi Diffinwal Lyr, au cours des premiers carousels de la haute cour. Des sources plus prudentes la dépeignent à ses débuts comme une simple suivante de la haute reine. Toutefois, ayant séduit l'archimage Guillaumère, elle lui aurait extorqué la plupart de ses secrets et serait devenue aussi puissante que lui. Je ne saurais trancher entre ces deux versions, qui du reste ne me paraissent pas inconciliables. Mon maître connaissait bien sûr le fin mot de cette histoire, mais je n'ai jamais eu l'audace de l'interroger à ce sujet. Sa disparition au cours de la bataille de la Listrel aura définitivement laissé cette question sans réponse. Ce que l'on peut toutefois inférer de l'âge multiséculaire de la dame, c'est qu'elle a connu la transestrie dans la plus haute antiquité, à une époque où ses terres étaient encore appelées Elessea ou Alessa, et qu'elle a probablement fréquenté le palais dont il ne reste que quelques pierres enfouies au sommet du Drucervin. Si, de nos jours, il n'est plus guère que deux régions où les elfes se mêlent encore aux mortels, dans la Marche Franche et sur l'île de Léwynède, il en allait tout autrement à cette haute époque. Les peuples frayaient librement sur toute l'étendue du continent. Les belles gens possédaient des domaines dans toutes les provinces qui furent plus tard revendiquées par la couronne de Léomance. Et il n'était pas rare que des enfants naquissent d'amour entre mortels et immortels. La liberté, sinon la désinvolture, avec laquelle l'enchanteresse continue à visiter le vieux royaume et l'Ouromagne, est en fait la perpétuation de ses habitudes antiques. Même si le cœur de son domaine se trouve dans les futaies bleues, elle n'a jamais renoncé aux itinéraires de son immémoriale jeunesse. Le jeu du ruban est aussi un héritage de cette époque. Il s'agissait alors d'un divertissement assez courant. Les elfes en usaient afin de distinguer les plus talentueux des jeunes humains suffisamment tôt pour avoir le loisir de développer leurs dons avant que la mort ne les emportât. Bien que les chansons des elfes et les rares sources humaines dépeignent cette époque lointaine comme un âge d'or, elle n'était certainement pas exempte de vicissitudes ni de troubles. Cependant, en comparaison de la catastrophe que provoqua la prédication d'Ocane et des horreurs qui la suivirent, l'ère d'Elessea peut nous apparaître comme un paradis perdu. La nostalgie pour ce monde disparu donne bien des clés pour percer le comportement d'une survivante comme la dame des futaies bleues, à commencer par sa haine pour le clergé du desséché. Car il est à peu près certain qu'elle connut le prophète avant qu'il ne succombât à sa révélation macabre. Et il est même très probable qu'elle eût pour lui de l'estime et de l'amitié. Avoir manqué de clairvoyance au point de ne pas pressentir le gouffre où il allait entraîner tous les peuples doit lui donner de cuisants remords. Au fil des siècles, la cristallisation de cette culpabilité aura durci son âme, aiguisant jusqu'à la déraison sa vindicte contre les Dessicatoriens. Chez les elfes comme chez les hommes, nul ne conteste que les prémices de la prédication d'Ocane germèrent au cours du séjour que fit le futur prophète à la haute cour de Diffinwal Lyr. Dans la géographie dessicatorienne, reprise plus tard dans le canon cycloteïste, la naissance métisse du futur prophète et ses grands talents lui valurent d'être introduit à la haute cour. Mais bien qu'il fût admiré pour ses œuvres et reçu des marques d'estime de la part des souverains, Okan demeurait révolté par l'inégalité des conditions humaines et elfiques. Pourquoi les premiers dépérissaient-ils si vite, tandis que les seconds semblaient jouir d'une inaltérable jeunesse? S'il avait hérité du sang des deux peuples, le souci éprouvé pour sa parenté humaine, qu'il voyait s'éteindre de façon précoce, l'amena à rechercher des réponses. Ce fut cette quête de sens et de justice qui l'aurait mené à sa retraite dans les monts Cruèdes, aux révélations qu'il y trouva et à sa funeste prédication. Cependant, la version que rapporte la tradition elfique diffère sensiblement. Pour les belles gens, le demi-sang, qu'on appelle Sinared plutôt qu'Okan dans les cinq vallées, fut effectivement reçu et fêté à la haute cour. Toutefois, c'était l'angoisse de sa propre finitude qui tourmentait l'artiste, plutôt que la perte de ses proches de lignée mortelle. Comme les hauts elfes admiraient ses talents et se désolaient de voir Sinared si troublé, certains d'entre eux plaidèrent pour lui accorder un privilège de longue vie. Il fallait y déployer un art particulièrement raffiné, mais la tâche ne semblait pas insurmontable, puisque le sujet était à moitié elfe. Ce fut l'archimage Guillaumer qui, en mobilisant les trois magies, offrit à Sinared le don d'immortalité. Or, ce prodige eut une conséquence inattendue. Sinared, qui avait été si effrayé par le trépas tant qu'il avait été mortel, perdit tout goût à l'existence lorsqu'il fut élevé à l'immortalité. Selon la tradition elfique, c'est la mélancolie dans laquelle il sombra alors qui le poussa à se retirer dans les monts Cruèdes, à abjurer sa longue vie et à prêcher la transcendance par la mort. Je ne saurais trancher entre ces deux versions de l'histoire. En revanche, j'ai la certitude que la dame des futaies bleues adhère à la seconde et que cela ne fait qu'accentuer sa détestation du culte du desséché. Il est probable que ce qu'elle considère comme la trahison de Sinared justifie à ses yeux toutes les fourberies qu'elle peut tramer pour préserver les cinq vallées. Quant à la défiance dans laquelle elle tint le petit Kel, juste parce qu'il possédait un peu de sang elfique, elle trouve également son explication dans la séquelle de ce triste passé. Hélas, la disparition du haut roi d'Ifinwal-Lir, qui, selon la légende, se laissa dépérir de chagrin après les horreurs de la bataille de Funaria, puis, 1000 ans plus tard, la mort du prince Ossirian et de mon infortuné maître à la fin de la guerre des grands vassaux, ont confirmé l'enchanteresse dans sa haine inexpiable pour les Dessicatoriens. Dès lors, il coulait de source qu'elle prit le parti de détruire la duchesse Odéhard, sitôt qu'Ameline lui eut rapporté la réapparition de l'ordre des Dolans. Elle perçut dans l'émergence d'une dame blanche, qui eût pu prendre la tête d'un puissant parti au sein de la noblesse bromaloise, un péril encore plus redoutable que feu le roi idiot. Car à la différence de Léodegar VII, Odéhard de Maginois avait conservé une tête politique jusque dans la non-mort. Le chevalier de Vaumacel eût-il mieux accepté la mission dont il était investi si la dame des futaies bleues lui avait exposé le détail de ses motivations? Question oiseuse, sans doute. À quoi bon refaire l'histoire une fois la catastrophe consommée? Sans doute l'enchanteresse accordait-elle plus grand crédit à la passion qu'elle était capable d'inspirer qu'à l'invocation du passé, et elle avait probablement raison. De fait, le chevalier aux épines accomplit bien ce qu'il avait accepté de commettre, et le château de verre en fut ensanglanté. En écrivant ces lignes, je dois avouer que j'ai parfois la plume qui tremble, car ce récit m'entraîne sur un terrain fort périlleux. j'y évoque trop la dame des futaies bleues. Non qu'elle puisse s'en offusquer, au contraire, elle raffole qu'on parle d'elle. Pour autant, même les écrivains qui chantent ces louanges s'exposent à de pénibles tribulations. Je ne reviendrai pas sur le triste sort de Devin de Belcastel. Hélas, j'ai d'autres motifs beaucoup plus graves de m'inquiéter. Tout d'abord, l'enchanteresse a connu mon existence et l'amitié que mon mentor m'a portée. Jadis, elle ne me prisait guère, et maintenant que mon maître n'est plus là pour me protéger, rien ne l'empêcherait de me faire un sort. En outre, Mirabilis n'est pas un confident fiable et je sais que tôt ou tard, par jeu ou par étourderie, il révélera mon existence. Enfin, et c'est là ma plus grande crainte, il existe dans les sous-sols de cette demeure une des abominations qu'exècre la dame des futaies bleues. Si elle devine que, d'une façon ou d'une autre, j'ai eu un lien avec la créature que j'ai enfermée dans les profondeurs, elle ne s'embarrassera pas de scrupules, et elle ne fera aucune différence. Elle lancera contre ce triste repère un assaut aussi malveillant que celui dont Vert fut l'objet. Mon seul atout réside dans sa négligence. Son rapport au temps est si distendu par rapport au nôtre qu'elle pourrait très bien se décider à n'intervenir que dans un an, une décennie, sinon un siècle. Rien ne m'assure toutefois que je puis compter sur pareil sursis. Et de toute manière, si la porte de la cave cède, si ce qui y est enfermé recouvre la liberté, il est probable que la dame des futaies bleues aura écho de cette libération et qu'elle interviendra dans un délai assez bref. Le Tchoudalien et moi, nous nous retrouverons alors pris entre deux feux. Qui l'emporterait dans pareil affrontement? Probablement l'enchanteresse, encore que rien ne soit écrit. Pour autant, notre sort ne serait pas plus enviable. Nous avons séjourné trop longtemps dans cette enceinte, nous portons le stigmate de son ancien propriétaire. La dame des futaies bleues ne chercherait pas à en savoir davantage. Elle entreprendrait de nous anéantir sans aucun état d'âme. À terme, nos perspectives sont donc très sombres. Pour échouer dans ce vaste palais décrépit, nous avons déjà franchi des seuils épouvantables. La fragile accalmie dont nous profitons depuis quelques années n'est qu'un répit. Ce que l'avenir nous réserve m'emplit d'effroi. En d'autres circonstances, j'aurais peut-être pris la situation avec philosophie et attendu la fin en m'y préparant avec dignité. Mais compte tenu de l'impasse où nous sommes tombés, cela m'est impossible. Ce serait pure folie. Car tant qu'un nécromancien n'est pas détruit, tant que ses cendres ne sont pas dispersées, tant que son âme dénaturée n'a pas été bannie, aucune fin n'est définitive. Tout peut toujours recommencer, à perpétuité, en dégringolant à chaque convocation de plusieurs degrés dans l'horreur. Parfois, quand l'angoisse devient trop forte, quand je sors en sursaut d'un moment de torpeur, avec dans l'oreille une rumeur remontée des patios ou des conduits de cheminée, l'affolement me pousse à fuir. Mais où irai-je ? Dans cette vaste bâtisse dont j'ai verrouillé toutes les portes. Même si j'en retrouvais l'entrée, ce qui est loin d'être certain, que deviendrais-je hors des murs? Une âme errante, en proie à toutes les traverses de la fatalité? Mais cela ne serait-il pas préférable, malgré tout, au dénouement funeste qui me guette en ces lieux? Lorsque le Tchoudalien a suggéré d'abandonner cette demeure pour chercher refuge dans une autre, j'ai d'abord rejeté cette proposition. Elle est dangereuse. Livré à lui-même, notre tortionnaire reprendra possession de cette enceinte, puis usera de son art pour nous traquer, nous acculer et nous asservir. De plus, l'idée est également immorale. De quel droit nous imposerions-nous chez autrui comme nous l'avons fait chez notre persécuteur? Rien, pas même l'extrémité où nous nous trouvons, ne justifie pareil accaparement. Cela n'embarrasse guère un criminel aussi endurci que le Tchoudalien, mais je ne saurais m'y abaisser. D'autant qu'en ayant recours à un procédé aussi détestable, nous ne ferions que donner prise au maléfice de notre tourmenteur. Cependant, je n'ai pu me résoudre à écarter complètement cette idée. En fait, elle me trottait dans la tête bien avant que le Tchoudalien ne l'ait formulée. Et s'il est hors de question que le scélérat et moi, nous nous emparions d'une nouvelle résidence après en avoir délogé ou séquestré les occupants, il existe peut-être un moyen terme, une solution moralement moins blâmable qui présente aussi l'avantage de minimiser les risques. En fait, pourquoi prendre possession d'une autre maison quand nous pourrions nous contenter d'y être conviés? Plus j'y songe, et plus je trouve cette solution séduisante. Où serait le mal si nous sommes invités au lieu de nous imposer? Et la protection ne figure-t-elle pas parmi les devoirs de l'hospitalité? En sorte que si nous trouvons refuge chez des hôtes obligeants, ils seront moralement tenus de s'interposer entre nous et les dangers extérieurs. Cela suffira-t-il pour autant à nous garantir contre les maléfices du nécromant ou les envoûtements de l'enchanteresse? On peut en douter. À ceci près que si nous disposions de nombreux points de chute, nous serions capables de semer nos poursuivants. En passant sans cesse d'un havre à l'autre, nous pourrions leur échapper un long moment, probablement plus longtemps qu'en demeurant enfermés dans ces murs. Je crois que c'est même l'une des raisons plus ou moins conscientes qui ont motivé la composition de ce livre. En dépit de la lassitude, des compromissions et des risques qu'entraîne cette tâche. Il est d'usage, dans la haute société, que les protecteurs invitent et gratifient les auteurs. Ce récit et la confession du Tchoudalien pourraient nous servir de sésame, afin d'être admis dans l'intimité de grands personnages, en mesure de faire obstacle, ne serait-ce qu'en nous cachant ou en nous faisant bénéficier du réseau de leurs relations, aux entreprises néfastes dont nous serons tôt ou tard les cibles. Singulier paradoxe. Tout en accroissant le péril où je me trouve, cet ouvrage contribuera peut-être à m'y soustraire. Mais pour cela, encore faut-il le terminer, et surtout filer les prestiges qui lui permettront de nous ouvrir de nombreuses portes. Car ce manuscrit, en définitive, pourrait devenir la plus utile des clés de mon trousseau.